VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
John Linden en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 31 janvier 2018. À la une ce soir, environ 80 gendarmes camerounais ont mené une opération militaire lundi à Danaaré, au Nigeria. Au Tchad, la grève générale et illimitée des fonctionnaires entre dans son deuxième jour.
Aujourd'hui, en Guyane, la grève a été respectée par tout le monde, totalement par les services publics. Dans tous les cas, nous n'accepterons jamais qu'on nous ampute un seul copec de nos salaires.
Younous Mahadir, président de l'Union des syndicats du Tchad. Au Burkina Faso, le syndicat de la santé a également entamé un débrayage. Ici, aux États-Unis, on reparle du discours de Donald Trump sur l'état de l'Union. Et bien sûr, dans 10 minutes, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Des forces de sécurité camerounaises ont passé la frontière vers le Nigeria fin janvier, où des milliers d'anglophones camerounais se sont réfugiés. Nathalie Barge.
La presse nigériane et camerounaise rapporte que 80 gendarmes camerounais ont mené une opération militaire lundi à Danaaré, où sont réfugiés des milliers de camerounais anglophones. Selon des réfugiés dans l'état de Cross River, une soixantaine de soldats camerounais sont venus la semaine dernière à Danaaré pour dire que leur village d'origine était sécurisé et qu'ils pouvaient revenir chez eux. Des habitants de Danaaré ont souligné que les soldats n'avaient pas effectué d'opération armée. Des forces de sécurité du Cameroun sont venues dans le district de Boki, ont indiqué les autorités de l'état de Cross River, affirmant qu'elles sont déjà venues dans le district d'Ekang en décembre. Le président du mouvement séparatiste anglophone, Sisiku Ayuktabe, interpellé au Nigeria, a été extradé lundi au Cameroun avec 46 de ses partisans.
Au Tchad, la grève générale et illimitée des fonctionnaires rentre dans son deuxième jour. Selon les organisateurs, le mouvement est largement suivi et c'est un succès total. Jusque-là, il n'y a pas de discussion avec les autorités. Idriss Fall a joint N'Djamena Younous Mahadir, président de l'Union des syndicats du Tchad.
Aujourd'hui, en Guyane, la grève a été respectée par tout le monde, totalement par les services publics, sauf un service minimum qu'on a installé dans les centres de santé. Et avec notre participation, nous avons installé le service minimum. Ailleurs, dans les provinces, jusque dans le désert, nous avons les informations de nos cellules qui disent qu'ils ont observé totalement la grève.
Est-ce qu'il y a des discussions avec le gouvernement?
Jusqu'à maintenant, non. On n'a pas eu de discussions. Ils disent qu'ils sont ouverts. Nous aussi, on est ouverts. Mais il n'y a pas eu de discussions. Le gouvernement ne nous a pas appelés. Il dit tout simplement qu'il est ouvert. Mais nous aussi, on est ouverts. Mais je pense bien que c'est au gouvernement de dire, bon, venez, on va discuter. Ce n'est pas à nous de dire au gouvernement de venir, vous discutez. Mais nous sommes prêts à toute discussion. Dans tous les cas, nous n'accepterons jamais qu'on nous ampute un seul copec de nos salaires. Parce que déjà, nous avons des difficultés avec ce que nous avons comme salaire.
Younous Mahadir, président de l'Union des syndicats du Tchad. Au Burkina Faso aussi, une grève de 24 heures du syndicat de la santé. La plupart des centres de santé ont été désertés par les agents qui ont décidé de soutenir un médecin poursuivi pour la mort d'une patiente. Les précisions de Bagassi Koura.
Les centres de santé et la plupart des hôpitaux publics ont tourné au ralenti. Pour parer au blocage total des services dans certains endroits, le gouvernement a mis en place un plan B pour assurer la continuité des soins. Des médecins militaires ont été réquisitionnés. Le syndicat des agents de la santé entendait protester contre le procès ce matin de Nongezanga Kabore, un médecin poursuivi pour la mort d'une patiente en 2012, inculpé pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Ce matin, à Waiguia, dans le nord du pays, à l'issue d'une audience de 3 heures, le parquet a laissé tomber la première charge et n'a retenu finalement que la non-assistance à personne en danger. 6 mois d'emprisonnement avec sursis ont été requis par le procureur et le verdict est attendu à la mi-février.
Au Togo, c'est aussi la colère des travailleurs avec une nouvelle journée de grève et des milliers de manifestants qui ont défilé dans les rues de Lomé à l'appel de l'opposition. Ils protestent contre le régime de Faure Gnassingbé. Claire Morin-Gibourg.
Après les enseignants des écoles primaires et secondaires du secteur public, le personnel de plusieurs centres de santé s'est mis en grève aujourd'hui pour 2 jours à l'appel du syndicat national des praticiens des hôpitaux du Togo. Au CHU Sylvanus Olympio, les bureaux de certains services sont restés fermés. Un service minimum a cependant été assuré au bloc opératoire et à la réception. Le syndicat exige notamment un meilleur équipement des hôpitaux publics et le recrutement du personnel soignant. Les enseignants en grève réclament, eux, une augmentation de leur prime salariale. Les discussions entamées mardi avec le gouvernement n'ont encore rien donné. La tension reste vive sur le campus de Lomé où les étudiants protestent contre les mauvaises conditions d'enseignement et la hausse brutale des frais de scolarité.
Au Niger, le procès en cassation de l'opposant Ama Amadou s'est tenu aujourd'hui à Niamey et le délibéré sera connu le 28 février prochain. Ancien Premier ministre arrivé deuxième à la présidentielle de 2016 a été condamné par contumace à un an de prison en mars 2017 par la Cour d'appel pour trafic de bébés. En RDC, l'armée congolaise vient de défaire la rébellion de Mai Mai Yakutumba en territoire de Fizi. La nuit du mardi à ce mercredi 31 janvier, le dernier assaut des forces loyalistes vient de libérer la presqu'île d'Ubuari, dernier retranchement des Mai Mai Yakutumba, un groupement de Mutambala. Le point avec Ernest Muhiro, notre correspondant à Bukavu.
Selon le capitaine Diedoné Kasereka, porte-parole adjoint de FRDC au Sud-Kivu, après plusieurs attaques offensives de la 2212e flotte navale de l'armée congolaise contre l'opposition des Mai Mai Yakutumba du 28 au 29 janvier dans la presqu'île d'Ubuari, celle-ci est enfin sous le contrôle des FRDC. Le capitaine Kasereka ajoute que les rebelles et leurs leaders sont en fuite vers des pays étrangers. Une autorité coutumière de la place qui a requis l'anonymat confirme la prise d'Ubuari, mais selon lui, il n'y a pas eu des affrontements à proprement parler la nuit du mardi, car le Mai Mai, profitant du répit observé après les pilonnages de l'armée le dimanche passé, se sont retranchés discrètement de la presqu'île. Selon l'organisation non gouvernementale Sireski, centre indépendant des recherches et d'études stratégiques au Kivu, depuis le début des opérations des FARDC pour déloger les Mai Mai Yakutumba en territoire de Fizi, voilà 10 jours, il y a plusieurs déplacés internes et externes dans la population civile. Sireski avance un chiffre de plus de 8000 habitants qui ont fui vers le Burundi et environ 10 000 déplacés internes arrivés principalement dans la cité de Baraka, à Mboko et même à Uvira via les beaches de Maendeleo. L'opinion locale à Uvira salue la prouesse de l'armée régulière qui vient de démanteler les Mai Mai en 10 jours, libérant ainsi une vingtaine d'agglomérations du secteur d'Enganja et Mutambala en territoire de Fizi. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
Les ambassadeurs de l'Union européenne au Soudan exhortent les autorités de Khartoum à libérer des dizaines de personnes arrêtées alors qu'ils manifestaient contre des hausses de prix. Le récent doublement du prix du pain consécutif à la décision du gouvernement de confier les importations céréales au secteur privé.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Espagne, la vice-présidente du gouvernement espagnol demande au chef du Parlement catalan de renoncer à soutenir la candidature de Carles Puigdemont à la direction de la région et de lancer des consultations pour trouver un autre aspirant. Destitué fin octobre de la présidence de la Catalogne par Madrid, Carles Puigdemont, installé en Belgique et recherché par la justice espagnole, reste le seul candidat. En France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a révoqué ce mercredi le président de Radio France, Mathieu Gallet, après sa condamnation le 15 janvier à 1 an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'Institut national de l'audiovisuel. Un tribunal turc ordonne la remise en liberté conditionnelle de Tanir Kılıç, président d'Amnesty International en Turquie, détenu depuis juin 2017 dans le cadre d'un procès qui suscite des préoccupations pour le reste des droits de l'homme dans pour le respect des droits de l'homme dans le pays et des critiques en Europe. Des forces séparatistes du sud du Yémen se sont déployées aujourd'hui dans Aden après 3 jours de combats meurtriers qui ont vu les troupes gouvernementales perdre le contrôle de la deuxième ville du pays. Aucun combat n'a été signalé, mais la situation reste tendue dans la grande cité portuaire où des éléments d'une force militaire yéménite pro-séparatiste appelée cordon de sécurité ont pris position dans les rues. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée par Eric Manirakiza.
Le taux de couverture du franc CFA zone CEMAC a bondi à 63% à la fin 2017. Les gouvernements ont réduit une partie des dépenses en devises, ce qui a stabilisé les réserves de change. Les décaissements du FMI ont aussi renforcé ces résultats. Néanmoins, les États de la zone CEMAC refusent systématiquement de fournir à l'institution d'émission monétaire BEAC les données sur les contrats d'exploitation des ressources. Les ministres des Finances de la CEMAC se réuniront vendredi 2 février à Douala. La Côte d'Ivoire injecte près de 3 milliards de dollars dans les infrastructures routières en 2018. C'est pour renforcer la voirie urbaine de la ville d'Abidjan, réhabiliter 3916 km de routes bitumées interurbaines et construire de grands ouvrages d'art. Les villes de l'intérieur du pays connaîtront une extension du revêtement des routes des chefs-lieux de districts, de régions et de départements. L'Égypte va créer de villages touristiques sur une superficie de plus de 2 millions de mètres carrés dans la ville d'El Daba, sur la côte nord du pays. Ce projet coûtera environ 565 millions de dollars. Le nouveau code d'investissement accorde une réduction de 50% d'impôts sur les investissements réalisés dans les zones sous-développées, permet l'acquisition des terrains pour des projets industriels et favorise la création de zones franches pour inciter l'investissement privé.
Une musique qui ne trompe pas, Nicolas Pinot est dans ce studio et c'est pour nous parler du sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Jour J pour les demi-finales du CHAN au Maroc.
Le Maroc, pays organisateur et grand favori de cette compétition, affronte à Casablanca la Libye à la mi-temps 0-0 entre les deux équipes. Un peu plus tard, la seconde demi-finale qui opposera le Nigeria au Soudan, ce sera à Marrakech.
Quelques transferts en football.
Arsenal et Dortmund ont trouvé un accord pour le transfert immédiat de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 141 buts au sein du club de la Roure. Selon Dortmund, les Londoniens ont déboursé presque 64 millions d'euros pour ce transfert. Et conséquence, l'attaquant français Olivier Giroud, barré par l'arrivée d'Aubameyang à Arsenal, a rejoint Chelsea, qui prête le belge Michy Batshuayi à Dortmund. C'est ce qu'ont annoncé les clubs concernés.
Le Camerounais est office, lui, reste en Turquie.
L'ex-international camerounais s'est engagé avec le club turc de Konyaspor au lendemain de sa résiliation de contrat avec un autre club turc, Antalyaspor. Samuel Eto'o, 36 ans, a signé un contrat pour 2 saisons et demie avec son nouveau club, dont une en option. On rappelle que l'attaquant camerounais avait rejoint la Turquie et Antalyaspor en juin 2015. Il avait notamment évolué avant au FC Barcelone, à l'Inter Milan, à Chelsea ou encore à l'Anci Makhachkala en Russie.
Le PSG accède à sa première finale de la saison.
Le Paris Saint-Germain, quadruple tenant du titre, s'est qualifié pour sa 5e finale de Coupe de la Ligue consécutive en battant Rennes 3-2 hier soir. Les buts parisiens inscrits par Meunier à la 24e, Marquinhos à la 53e et Lo Celso à la 58e minute. Le fait du match, c'est bien évidemment Kylian Mbappé qui a reçu le premier carton rouge de sa carrière pour une vilaine faute par derrière sur Sarr. Rennes est revenu en toute fin de match par des buts de Sacco et Psitt, insuffisant. La seconde demi-finale de cette Coupe de la Ligue, ce sera ce soir entre Monaco et Montpellier.
Et on termine par le championnat de basket nord-américain, Nicolas.
Lourde perte pour Cleveland face à Détroit. Les Cavaliers qui ont perdu la rencontre 125-114, mais ils ont surtout perdu Kevin Love, victime d'une fracture à la main. James Harden, lui, est devenu le premier joueur de la NBA à réussir un triple-double à 60 points lors de la victoire de Houston contre Orlando 114-107. Et par ailleurs, Washington, privé de son meneur de jeu John Wall, qui souffre d'un genou, a dominé Oklahoma City 102-96. Ça met fin ainsi, Georges, à une série de 8 victoires du Thunder.
C'était Nicolas Pinot, c'était le sport.
au monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, présenté par John Lydon, produit par Georges Léonard Sagno. Place à présent au dossier du jour et on commence par le Cameroun. Des forces camerounaises ont mené une opération au sein des anglophones réfugiés au Nigeria voisin. Cela fait suite à l'extradition du Nigeria vers le Cameroun des leaders séparatistes anglophones. Que pense la population? Raïssa Girondin a posé la question à Joseph Essama, journaliste camerounais.
Ce sont les Camerounais lambda qui en pâtissent parce que il y a beaucoup de résidents du côté, les civils du moins, les civils du côté du nord-ouest et du sud-ouest qui se réfugient au Nigeria, d'autres qui viennent dans les régions francophones et vraiment c'est. Cette situation est lamentable pour toute la communauté nationale et vraiment qu'une solution soit trouvée.
Mais comment comprendre la décision du gouvernement nigérian de livrer Ayouk Tabe à Yaoundé?
Le divisionnisme est lié au camp, étant donné que le même fait pourra se répéter chez eux et avec surtout ses conséquences, parce que le ACR a communiqué une ligne camerounaise qui sont réfugiés déjà vers le Nigeria.
Une des solutions pour enrayer cette crise peut-elle être militaire?
La solution pour résoudre ce problème ne saurait être militaire. Dialogue. Au contraire, la solution militaire aggrave la situation parce que depuis que les Maghrébins se sont radicalisés, on a vu des actes inacceptables. Ils ont égorgé certains militaires à la maquette. On se dit qu'avec ces arrestations encore, ils ont déjà porté deux forces militaires d'un côté, la force militaire amazonienne qui est du côté du sud-ouest et une autre force militaire qui est du côté du nord-ouest. Et cette force militaire, c'est elle qui agit actuellement sur le terrain. Donc avec la solution militaire, c'est comme on appelle le sang. Et puis eux-mêmes, ils se sont lancés dans le bain de violence. Et si on continue à vouloir régler le bain par la violence, je crois qu'on risquera d'aboutir à... peut-être une guerre civile généralisée.
Alors, est-ce que vous pensez qu'un dialogue peut être possible, un dialogue pacifique entre le Cameroun et puis ses leaders séparatistes?
On a déjà lancé à plusieurs reprises cet appel envers le gouvernement de trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse, aboutir à un dialogue inclusif. La seule chose que le gouvernement a brandi éternellement encore avec la communication du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, il était clair et radical que l'État du Cameroun ne fléchira pas devant ces sécessionnistes.
Joseph Essama, journaliste camerounais joint à Yaoundé.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer à votre avis ce mercredi à 18h05 temps universel sur VOA Afrique. Le président namibien Hage Geingob prend des vols commerciaux pour ses déplacements et interdit aux ministres d'aller à l'étranger pendant un mois. Que pensez-vous du train de vie de l'État? Faut-il réduire les dépenses? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. A tout à l'heure sur VOA Afrique.
En République centrafricaine, des groupes armés qui prétendent assurer la sécurité des populations et leurs biens dans le quartier kilomètre 5 de Bangui perturbent la tranquillité des habitants. Les commerçants du PKC avaient financé ces groupes d'autodéfense pour protéger le quartier, mais ces derniers ont laissé place à d'autres bandes désorganisées. Yacouba Ouedraogo a joint Youssouf Djibril, président de l'association des commerçants du quartier kilomètre 5.
Il y en a qui ont laissé leurs armes et puis ils ont rentré dans le vide actif. Il y en a qui ont parti à la DDCVR. Mais le reste là, moi je crois qu'ils ne sont pas des groupes.
Oui, vous dites que ce ne sont pas des groupes d'autodéfense. Qui sont-ils?
L'autodéfense va défendre la population. Il y a quelqu'un qui détient les armes et ils ont brûlé même tout le marché. Si tu même parles, même c'est des problèmes. Si tu intervenais, c'est des problèmes. On te mélange un système. Voilà, comment pays dans le ça? Sans autodéfense à défendre la population, nous n'avons pas de secours, ni côté de l'intervention, ni côté du gouvernement. Depuis des années qu'on vivait comme ça.
Est-ce que vous connaissez leur identité? cités, qui sont-ils?
La majorité, c'est des Centrafricains. Il y en a qui sont nés en province, il y en a qui sont nés ici.
Qu'est-ce qu'ils font exactement dans les quartiers? Comment ils persécutent la population?
Ils ont leur groupe, c'est-à-dire ils ont leur fonction, ils ont leur base. C'est pour ça que l'enfant, parce qu'on a demandé le démantèlement, ils font démonter toutes les bases. Quelqu'un qui est désespéré, qui n'a pas de travail, c'est un bandit, il va commettre ses actes, après il va regagner aux bases, et puis le base va les défendre. Par exemple, le groupe, ils ont venu brûler les machines, ils ont regagné les bases, ils vont aller les bases, ça les défendre toujours. La population est prise en otage. La population n'a pas la force. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous, maintenant, on s'intervient dans les ondes. On s'intervient, vous. Nos vies, maintenant, c'est en danger. Ils nous menacent. On va vous enlever. On va vous tuer. Même nous, on peut pas décider pas. Nous sommes les fils de ce pays. On peut s'amuser à tout. On peut pas s'amuser à notre pays.
Qu'est-ce que ces groupes armés-là font dans les quartiers exactement? Est-ce qu'ils prélèvent des impôts? Est-ce qu'ils prélèvent des soi-disant taxes? Qu'est-ce qu'ils font aux populations?
Non, l'histoire de l'impôt, l'histoire des taxes, non. Ils ne faisant pas ça. Là, il faut que les gens n'amènent pas d'amalgame. C'est-à-dire, parmi les autres, il y en a, c'est des fantiniens. Il y en a qui gardaient les marchés, le fin du mois, ils venaient, ils prenaient cet argent. Parce qu'ils utilisaient ça. Ça, c'était un. De deux, à un moment donné, on a interdit, on dit que non, on ne voit rien de nous. Il ne faut pas casser des magasins. La nuit, on casse des 2-3 magasins. La nuit, on casse 2-3 magasins. C'est un des pressions. Donc, nous sommes obligés. Donc, on donne. Parce que quand ils ne donnent pas, on va casser ta magasin la nuit.
Combien vous donnez?
Il y en a qui prennent 5 000, il y en a qui prennent 2 000, il y en a qui prennent 3 000. Ça dépend. Hein.
À quelle périodicité? C'est par mois, c'est par semaine ou quoi?
Non, chaque mois.
Il y a la MINUSCA. Il y a les forces de sécurité centrafricaines. Ces forces-là ne patrouillent pas dans le quartier kilomètre 5.
Non. Les forces de défense et de la sécurité, ils ne travaillent plus. Mais si le ministère de la Défense, ils n'ont pas donné de l'autorisation, ils ne vont pas s'intervenir. Maintenant, là, c'est la ministère qui est en train de garantir la sécurité. Ils sont en train de faire des patrouilles. Donc, nous voulons aussi restaurer de l'autorité de l'État. Nous n'avons pas de la police, ni de la gendarmerie. Mais il faut qu'on ouvre la frontière, c'est de qu'on aura la police, la gendarmerie, et la ministère, et le SACA, en tant que vraiment sécuriser cette population-là.
Youssouf Djibril, président de l'association des commerçants du quartier kilomètre 5.
Bonjour à tous, c'est Kabadou avec vous et je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel dans votre émission hebdomadaire Washington Forum. Le rideau est tombé lundi sur le 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président rwandais Paul Kagame succède au Guinéen Alpha Condé à la présidence tournante de l'organisation panafricaine. Parmi ses objectifs, taxer certains produits et créer une zone de libre circulation. Quel avenir pour le projet de réforme porté par le dirigeant rwandais? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Ekia Badou et ses invités.
L'Union africaine a créé un marché unique du transport aérien. Il vise à améliorer la compétitivité entre compagnies aériennes et le transport entre pays africains. Jusque-là, 23 pays ont adhéré à cette réforme. Eric Malerakis a joint à Genève Yann Hoffman, chef du service de la logistique à la CNUSET, l'Agence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
L'expérience qu'il y en a dans d'autres régions et d'autres modes de transport maritime, terrestre, ce type de marché commun, c'est positif pour les utilisateurs de toute façon, c'est positif pour les coûts de transport, la connectivité, et en fait, c'est même positif pour les entreprises de transport aérien au long terme, parce qu'ils gagnent un marché régional où il peut se développer mieux et après il peut même être plus compétitif dans le monde. Et je félicite la Union africaine pour avoir commencé cette initiative.
Est-ce que vous pensez que l'Africain va désormais voyager à moins cher?
Je crois que ça va être un des résultats, oui. Je suis confident que ça va arriver. Bien sûr, c'est le futur, on ne sait pas. Il faut maintenant la mise en œuvre. Hein. Une fois c'est l'accord, la mise en œuvre de cet accord, donc les régulations nationales, l'ouverture, les accords avec les lignes aériennes. Donc il faut attendre si ça va vraiment arriver, mais en principe, les Africains devraient voyager moins cher entre eux, entre les pays africains.
Est-ce que les pays, au niveau des taxes, y a-t-il un avantage particulier?
Bon, en principe, s'il y a plus de choix, normalement, la concurrence va faire que les prix doivent être moins élevés. Bien sûr, il faut toujours observer, il faut prêter attention qu'il n'y a pas des abus, et maintenant il faut regarder les alliances entre les lignes aériennes. On va avoir la concurrence, mais vous savez, ici en Europe, on dit généralement, si on doit aller d'un pays africain à un autre pays africain, très souvent, il faut aller vers Paris, vers Bruxelles, vers Londres. Et normalement, si on commence à avoir plus des options dans la région, plus d'alternatives d'aller directement entre les pays africains.
Il y a des pays comme l'Éthiopie, le Maroc, qui n'ont pas adhéré à ce marché. Vous pensez que ce n'est pas dans leur intérêt?
J'ai pas vraiment une opinion sur les cas spécifiques, un pays à l'autre, mais justement, les deux pays, ils ont déjà des expériences positives dans leur marché aérien. Je crois, je pense, mais je n'ai pas étudié le cas spécifique, hein, mais je crois au long terme, ça devrait probablement aussi être dans leur intérêt de faire partie de ce marché commun.
Yann Hoffman à Genève.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Donald Trump a tenu hier soir son premier discours sur l'état de l'Union devant les deux chambres. Le président a choisi de lire fidèlement son prompteur sous les nombreuses ovations des républicains. Dilidico a joint Mohamed Mariko, agent immobilier à Bamako, pour obtenir ses réactions sur le discours de Donald Trump et pourquoi il a tenu à l'écouter.
L'exemple pour laquelle j'ai suivi le discours de Donald Trump, c'est parce que tout simplement, comme vous savez, les États-Unis aujourd'hui, n'est-ce pas, est considéré comme le pays le plus puissant. Et le président américain, quand il parle, tout Africain est intéressé par ce qu'il va dire, obligatoirement. Et parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup de problèmes. Donc quand le président américain parle, on s'intéresse pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant concernant.
Dans son discours d'hier, pas un seul mot n'a été dit sur l'Afrique. Comment réagissez-vous face à cela?
Le fait de ne pas parler sur l'Afrique nous montre réellement que nous ne comptons pas beaucoup sur les décideurs du monde, comme on a l'habitude de voir. Parce que quand on nous regarde, quand on voit comment les choses se passent en Afrique, le fait de ne pas parler de nous, ça nous montre réellement, franchement, que il n'y porte pas de considération sur notre personne et sur le continent africain en général.
Quel est votre avis sur les nouvelles normes d'immigration que Donald Trump souhaite mettre en place, à savoir supprimer la loterie de la Green Card et aussi limiter le rassemblement familial aux conjoints et aux enfants mineurs?
Les États-Unis est un pays qui a souhaité depuis dans le temps recevoir des gens. C'est la raison pour laquelle il est le pays le plus puissant par rapport aux autres pays. Donc si aujourd'hui Donald Trump décide d'arrêter ça et d'enfreindre ça, bon, c'est sa décision. Comme il a si bien dit, il dit qu'il veut mettre en place l'Amérique d'abord. Quand on passe à soi d'abord, c'est une bonne chose. Mais en n'oubliant pas que nous sommes obligés les uns les autres à venir en aide à ton frère, l'autre frère qui aura besoin de toi. Comme demain toi aussi, tu auras besoin de lui. Pensez aujourd'hui à freiner ça. On ne peut que se contenter de cette décision-là et prendre acte. Donc vous voyez, ça peut créer beaucoup de haine chez les gens à l'encontre d'un pays que nous avons pensé être un pays de droit, un pays qui se soucie de l'humanité, pour que les gens se réunissent, pour que les gens puissent avoir leur liberté, comme on l'a si bien dit, un pays de droit, de démocratie. Donc ça crée des haines à l'encontre des États-Unis, moi, à mon avis. Alors que présentement, et depuis les années passées, après la guerre du Golfe, autre là, les gens, ils avaient des haines contre ce pays-là. Maintenant, après le passage de Barack Obama, cette haine-là a avait tendance à être disparue.
Mohamed Mariko, joint à Bamako par Dilidico.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
c'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Georges Léonard Sagno. Bill Barber était à la console. Présentation John Lydon. Merci d'avoir suivi.